6h03, nous sommes jeudi 26 novembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. D'abord, vous dire que l'avertissement de pluie verglaçante pour Montréal est terminé depuis à peu près une demi-heure. Donc, on a de la pluie intermittente de prévu avec nappes de brouillard qui devraient se former au cours de l'après-midi. Maximum prévu autour de 7 degrés. En soirée, c'est un peu le même scénario, donc nuageux, averses, brouillard, etc. Et autour demain, là, encore une fois, du temps couvert. Il y aura quelques moments ensoleillés, mais ça demeure limité. Et puis finalement, les températures ne bougent pas 6 degrés. L'aperçu pour le week-end samedi, possiblement de la pluie. En tout cas, le risque est à 30 % 5 degrés. Et dimanche, soleil-nuage. Également, on prévoit autour de 5 ou 6 degrés. Ce matin, je dois vous dire que ce qui me bouleverse, et je pense que c'est un mot tout à fait juste, encore une fois, la DPJ à Granby. C'est dans la presse, un juge de la Cour du Québec qui, une fois de plus, ramasse la DPJ. C'est un enfant de 17 ans, un ado. Il a été battu, affamé par sa mère, et on l'a découvert par hasard. C'est un huissier qui se pointait là, avec une ordonnance d'éviction de la régie du logement, puis qui est arrivé face à face avec cet ado-là, puis qui a dit « ça n'a pas de sens ». Ça n'a pas de sens. Des blessures, des médecins qui l'ont examiné, qui ont dit que ça ressemblait à quelqu'un qui avait passé des jours et des jours dans un camp de concentration. Tu sais, les images qu'on a d'un être humain rachitique, mal nourri, avec des blessures qui montrent qu'il a tenté de se protéger. Alors, le huissier a appelé la police. Il a dit, ça n'a aucun sens que j'ai vu. La police a débarqué. Et finalement, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que cette mère-là, qui a 3 enfants, d'abord, on l'a condamnée à 8 ans de prison pour la violence qu'elle a fait subir au jeune en question. Le jeune a fait l'objet de 10 signalements à la DPJ. 10! Depuis 2008. Et on n'avait pas retiré les enfants, là. Le juge dit, je cite, que la DPJ ait gravement manqué à son mandat de protéger les enfants de l'accusé ne peut constituer un facteur atténuant. Et le fait qu'on ait fermé le dossier représente, dit le juge, une décision surprenante et hautement questionnable. Là, juste rappeler qu'en plus de ce cas, il y a toujours l'histoire de cette fillette qui avait tellement assommé le Québec qu'on avait créé la Commission Laurent. Puis rappelez-vous l'autre histoire, les 4 enfants, le frère et sœur, toujours à Granby, qu'on avait découvert. Ils étaient négligés, les enfants souillés, et on attendait qu'ils soient évalués correctement. Les fameux délais, l'absence d'avoir des services. Je veux dire, tu lis ça ce matin, là, et tu ne peux pas faire autrement que te dire ça n'a aucun sens. Comment ça se fait qu'ils ont fermé le dossier? Moi, je veux bien entendre toutes les raisons possibles, là, mais ça a quelque chose. Et ça, c'est le problème aussi. Là. Il faut être certain qu'on ne trouvera pas de responsable. Il n'y a rien. On va passer un autre appel. D'ailleurs, j'ai un autre cas de DPJ à vous raconter un peu plus tard ce matin. Je ne peux pas identifier la personne, mais je vous donne le cas. Là. Ça se passe en Montérégie. Famille reconstituée, OK? Madame a 3 enfants avec le père biologique et 1 enfant avec son nouveau conjoint. Le père biologique, pas biologique, mais le nouveau conjoint, est dans la vie de la mère depuis 7 ans. L'ex a été arrêté, envoyé en prison dans une affaire de violence conjugale. Les enfants ont probablement, quand ils étaient chez leur père, étaient témoins de cette violence et ils en sont traumatisés. Les enfants ont besoin de soutien psychologique, mais quand on les voit actuellement, dit le père, il y a de quoi s'inquiéter. Un est autiste, beaucoup plus agressif, les autres ont l'air perturbés. Et là, le père sort de prison. Et là, la DPJ pense que c'est une bonne idée que le père biologique, arrêté dans une affaire de violence conjugale, puisse à tout le moins parler aux enfants au téléphone. Et c'est quoi la prochaine étape? On lui redonne le droit de visite ou le droit d'avoir des contacts supervisés, pas supervisés. Et ça, quelqu'un va devoir me dire que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Après un séjour en prison, puis après peut-être avoir battu sa nouvelle conjointe, quand on dit qu'il faut changer le prisme et se placer dans la perspective, c'est quoi qui est bon pour les enfants? C'est la seule maudite question. C'est pas important de savoir si c'est bon pour le père, c'est pas important de savoir si c'est bon pour la mère. Qu'est-ce qui est bon pour les enfants? Qu'est-ce qui va les rendre, je dirais, plus heureux, avoir un sentiment de sécurité pour favoriser leur développement? Je vais revenir plus tard dans l'émission. Ce matin, il y a deux nouvelles également qui peuvent pas nous étonner. Des pédophiles dans l'Église catholique puis la mafia qui va au casino. Alors, je commence par ce rapport dévastateur pour l'Église montréalaise. Ça concerne le prêtre Brian Boucher, qui pendant quoi une trentaine d'années a abusé de petits garçons, d'adolescents. Et malgré les signalements qui étaient faits, dès la fin des années 80, l'Église, comme c'est toujours la même recette au sein de l'Église catholique, face à un cas de prêtre pédophile, tu le prends, tu le sors, tu le déménages, tu le caches, tu essaies d'étouffer le scandale. Certains diront, on va essayer des thérapies. Ça a été le cas de Boucher, là. Et il y a des parents qui étaient inquiets, qui trouvaient qu'il y avait un comportement un peu bizarre, là, pour un jeune prêtre, là. On a découvert quoi? Il amenait les enfants un peu partout. Il amenait les enfants en ronde. C'est le classique, je vous dis, c'est la recette du pédo qui n'est pas traitable, qui ne sera jamais traitable. Et ce rapport de plus de 250 pages de l'ancienne juge de la Cour supérieure, Pepita Capriolo, montre que non seulement on a ignoré les comportements du prêtre, mais on a tout fait pour rien voir. Et là où ça se corse, c'est que même si on l'a envoyé chez les psys et tout ça, il y a des gens qui ne sont plus là, mais d'autres qui ont pris leur retraite, qui ont décidé de détourner le regard. Et ce qu'on comprend dans le jugement, c'est que Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal, aujourd'hui décédé, lui, il aurait tout fait, là, pour protéger un prêtre pédophile. T'as des rumeurs, ça attaque les réputations, c'est épouvantable. Marc Ouellette, alors que il était recteur du grand séminaire où étudiait Boucher, il y a eu des plaintes. Et puis finalement, bon ben, on l'a renvoyé vers où? Vers un autre séminaire en Ontario. C'est ça l'histoire de l'Église catholique avec les prêtres pédophiles. Puis ça, c'en est un. Peux-tu s'entendre qu'il doit en avoir une couple d'autres? Je vais parler avec Monseigneur Lépine un peu plus tard ce matin. Ce qui est un peu troublant aussi dans les réactions, c'est de dire que, bon, on prend acte du rapport et que l'idée, c'est de ne pas chercher des coupables, mais des fautes dans le système. Quand je vous dis, là, cette obsession au Québec, là, de jamais identifier des coupables, des responsables, c'est le système, comme si le système vivait seul par lui-même. Alors, c'est un rapport dévastateur. Pour ce qui est de l'affaire du casino, bon, c'est à JE et c'est dans le Journal de Montréal ce matin. On le sait que les gens du crime organisé se servent du casino pour blanchir de l'argent. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus facile. Et surtout qu'on ne pose pas de questions au casino. Puis là, on a des exemples intéressants où ils arrivent avec l'argent comptant. Puis là, ils échangent ça pour des jetons, puis ils jouent, puis... C'est un classique. Tu n'es pas supposé te promener avec autant d'argent comptant. Mais dans les faits, c'est ça qui se passe. Et là, comme ça devient des grands joueurs, on apprend entre autres que M. Sollicito, figure importante de la mafia montréalaise, il devient comme un client VIP, privilégié. Fait qu'il a droit de sortir davantage des billets de golf, des billets de spectacle, qui appelle pour réserver une belle chambre parce que c'est la fête de sa femme. On s'en va au casino Mont-Tremblant ou dans l'Outaouais. Et là, l'Auto-Québec, paraît-il, ne veut pas répondre. Est-ce que quelqu'un pense sérieusement que quand les motards, quand la mafia italienne, quand la pègre asiatique a besoin de blanchir de l'argent, c'est rien de plus simple. Tu achètes des jetons, tu te fais rembourser, tu as un beau chèque, puis tu pars avec ça, puis de temps en temps, en plus, tu gagnes. Alors, on peut dire que c'est quand même assez réussi. On va parler un peu de la COVID. D'abord, il y a beaucoup de Québécois qui réalisent que les règles décrétées par la santé publique font qu'ils ne pourront pas participer à des festivités avec des membres de leur famille. Puis ce matin, j'ai retenu là, parmi tous les courriels deux exemples qui résument très bien la situation. C'est une auditrice, d'abord, qui me dit « Je travaille dans un centre de soins de longue durée. On n'a pas de cas de COVID. Mais quand j'écoute la directive, compte tenu que je dois travailler et que je ne peux pas faire la fameuse quarantaine une semaine avant, ben, je ne peux pas aller participer à des activités avec ma famille. » Puis en même temps, il y a des membres, pas des membres, mais des résidents, là, des patients, qui vont pouvoir aller dans leur famille, fêter Noël, puis ils vont revenir, on ne sait pas trop dans quelles conditions. Ben, dis-moi, je ne peux pas, si je m'en tiens là, aux règles strictes de la santé publique. Donc, tous les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, 7 jours sur 7, 24 sur 24, puis on sait comment ça fonctionne, les blocs de congés à Noël et au jour de l'an. Donc, à Noël, elle ne peut pas, puis au jour de l'an, elle ne travaille pas, mais officiellement, elle n'a pas le droit. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, ça se passe dans le commerce au détail. C'est un monsieur qui est assistant gérant secteur des viandes dans un supermarché, je ne vais pas le nommer, qui dit « Je travaille de 5 à 7 jours par semaine. » Et là, encore une situation où je ne peux pas respecter la fameuse quarantaine. Pourquoi? Parce qu'on travaille puis on travaille. Et le 26 novembre, Québec a décrété, semble-t-il, il faudrait que je le valide, là, il y a peut-être des gens qui le savent et qui vont me le dire, c'est que plutôt que d'ouvrir à 1 heure l'après-midi, ils vont ouvrir à 10 heures le matin. Et lui, il dit, dans mon cas, ça veut dire qu'il faut que je sois là à 7h, 7h30 le matin. Donc, je travaille encore et je ne peux pas fêter. Et là, les gens commencent à s'en apercevoir. Quels sont les choix? Les choix, tu dis, sur le plan de la santé publique, ben non. Puis c'est peut-être pas si grave que ça de ne pas pouvoir fêter avec frères, sœurs, puis bon. Et surtout que dans quelques mois, tu sais, il y a comme une échéance en face, là, c'est-à-dire le fameux vaccin, ben, on reporte dans le temps. Comme disent beaucoup d'auditeurs, on fera le Noël du campeur. Là, on sera probablement autorisé à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'il y a un peu d'incompréhension, il y a un peu de flou. Il y a beaucoup, beaucoup de frustration aussi de gens qui disent « Hey, pas tout le monde qui est capable de se taper une semaine de quarantaine avant, puis d'avoir les journées en question, puis après ça, d'être capable de travailler, puis de pas... » Donc, tout ça dans le respect des règles. Pour ce qui est du vaccin, là, AstraZeneca a eu des petits problèmes, semble-t-il, avec la rigueur scientifique concernant son vaccin. Je voyais ça ce matin. Là, ils ont été obligés de s'expliquer parce qu'on a découvert... puis bon, je rappelle là, qu'il y avait un taux d'efficacité au total, là, quand on combine l'ensemble des résultats, de 90%. Mais quand on regarde donc les résultats préliminaires, semble-t-il qu'il y a des erreurs dans le dosage du vaccin qui a été utilisé pour faire l'étude en question et qu'il y a certaines données qui seraient, disons, un peu chaotiques, il y aurait eu des erreurs. Est-ce que ça vient remettre en question l'ensemble de la recherche? Peut-être pas, mais ça va prolonger la recherche pour être capable de faire les ajustements. Quant au Canada, parce qu'on ne sait toujours pas à quel moment le Canada va avoir les vaccins. On nous a dit hier, janvier, février, mars, qui on va vacciner en premier. Je pense que c'est assez clair qu'on va vacciner les gens du réseau de la santé puis les gens qui sont dans des résidences, qui ne peuvent pas, par exemple, se déplacer. Je pense que ça, c'est assez clair. Et ça montre la faiblesse du Canada en termes de capacité de produire des vaccins. Pendant des années, les pharmaceutiques ont fermé leurs laboratoires. Là, je ne ferai pas la longue histoire des avantages qui ont été octroyés, surtout au Québec, aux compagnies pharmaceutiques, les fameux brevets, et la possibilité de nous vendre des médicaments plus chers en échange de recherche, de développement. Et tranquillement, cette recherche et développement a disparu. Puis on a quand même maintenu pendant des années des avantages. Alors, tout ça pour vous dire que c'est pas d'hier que l'industrie pharmaceutique au Canada a considérablement atténué ses activités manufacturières. Et là, les partis d'opposition disent, pardon, à Justin Trudeau, « Hey, un, le constat était connu. Deux, depuis le mois de février-mars, on le sait qu'il va avoir ces besoins-là. Comment ça se fait qu'on n'a pas réactivé plus rapidement avec des capitaux? » On l'a fait un peu, là, mais ça tarde. Donc, la capacité de produire des vaccins. Alors, on va en avoir des vaccins, mais sûrement pas. Tu sais, parce que le chiffre de M. Duclos hier qui me dit « J'ai 414 millions de doses de promises. J'ai une entente. » Ben oui. Mais ça, là, tant que tu ne les as pas livrées, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, vous allez retrouver ça dans vos journaux ce matin, un peu partout. Et puis, un autre classique du temps des fêtes, c'est-à-dire la réduction de services dans les hôpitaux. Alors, on va réduire le bloc opératoire, les cliniques externes. Donc, tout ça parce que les gens du réseau sont à bout, c'est le cas de le dire. Ils sont fatigués, ils ont beaucoup de pression. Ça fait des mois que ça dure. On nous garantit qu'il n'y a pas de fermeture de prévu, mais on ne sait pas comment ça va se passer non plus, là. Cette période qui va suivre le congé de Noël, là. Puis en janvier, il y a déjà une surcharge dans le réseau pour toutes sortes de problèmes. Je regardais hier les taux d'occupation de certains hôpitaux. La Maisonneuve-Rosemont, c'est hyper élevé. Le CHUM, on est au-dessus de 100 %, mais ça fait partie de certains standards. Alors, donc, ça veut dire que dans les hôpitaux, on va réduire quand même les services. Et puis, pour ce qui est de l'impact chez les jeunes, il y a une étude qui sort ce matin de l'Institut du Québec qui montre que les jeunes travailleurs, les 15-24 ans, ben, ça leur fait mal, cette crise. Donc, ils sont de plus en plus nombreux à être au chômage. Il y en a qui sont retournés aux études, ce qui n'est évidemment pas une mauvaise idée, là, si tu n'es pas capable de trouver un emploi. Mais c'est que la période qui a précédé la pandémie, les jeunes étaient hautement sollicités. Il y avait des emplois. Souvenez-vous, là, on parlait de pénurie de main-d'œuvre, puis on était prêt à offrir des meilleurs salaires. Et là, bang, tout d'un coup, ils se retrouvent au chômage et ils ne savent pas nécessairement quoi faire. Alors, on va parler avec Mia Hamzy tantôt. Et il y a le président Trump, hier, qui a encore répété, dans son espèce de mantra délirant, qu'il a gagné, que c'est lui le président élu, que l'élection a été truquée encore une fois. Il n'y a pas de preuve de ça. Je veux dire, c'est un échec retentissant depuis le début en termes de procédure devant les tribunaux. Et hier, il en a profité pour gracier son ami Michael Flynn, qui avait été condamné pour avoir menti au FBI. Entre vous et moi, là, c'est pas exceptionnel à Trump, là, de donner le pouvoir à quelqu'un de gracier un individu qui a été condamné par le tribunal. Tu sais, c'est comme... comprends que c'est dans la Constitution. T'sais, Clinton a gracié des fraudeurs, puis c'est quand même assez bizarre qu'on donne autant de pouvoir à quelqu'un qui s'en va, là, puis qui dit, ben, en partant, là, puis tant qu'à faire, pourquoi ne pas me gracier moi-même? Certains pensent que c'est un des scénarios, que Pence va être nommé président puis qu'il va gracier Trump, parce que lui, il y a quand même une série d'enquêtes qui le concernent. 6h22. La métropolitaine, monsieur.